séance de Nicolas Frise à Radio Grenouille.
Maintenant !
On retrouve Jean Christoffol, professeur de philosophie à l'école d'art d'Aix-en-Provence, pour la deuxième partie de cet entretien sur le thème du bien commun. Aujourd'hui, l'appropriation du savoir par des intérêts privés est-elle de nature à provoquer un mercantilisme de la pensée, une autocensure des artistes et des chercheurs, enclins à diriger peut-être leur travail sur des axes de rentabilité ?
Il y a cet aspect-là, d'une autocensure ou d'un asservissement des recherches à des intérêts qui sont des intérêts privés. Mais il me semble que par-delà ça, il y a un problème beaucoup plus général. Ce problème est un problème de fond. On a considéré pendant longtemps que le savoir était un bien commun et que l'une des valeurs qui devait être garantie était celle du libre accès et du partage de la connaissance. On voyait là un fondement non seulement à l'idée d'un développement des sociétés, de ce qu'on pouvait appeler le progrès, mais on y voyait aussi un fondement de la démocratie. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est bien à un recul de cette valeur, c'est-à-dire au fait que de plus en plus, on considère que l'appropriation privée de la connaissance est première et que l'accès à la connaissance ou son partage deviennent des exceptions. C'est l'un des problèmes qui se pose avec la loi du DAD-VSI qui est en train d'être débattue au Parlement. La question n'est pas immédiatement de savoir comment on va rentabiliser la création. Cette question-là en cache une autre qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus sérieuse. Cette question-là est de savoir si les intérêts de l'auteur ou les intérêts de l'investisseur qui va permettre la production et la diffusion de l'objet intellectuel, si ces intérêts-là doivent être protégés momentanément, mais sous une forme d'exception par rapport à un principe fondamental qui est celui du libre accès au savoir et de son partage, ou si au contraire ce libre accès doit être soumis à l'intérêt de la rentabilisation. On a assisté ces dernières années à des processus inquiétants, par exemple à l'allongement aux USA de la durée pendant laquelle s'exerce le droit d'auteur. On est passé de 75 ans à 95 ans pour protéger des intérêts qui sont ceux de Disney, qui sont ceux de Sony. Nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle on est en train d'essayer de limiter la copie et la diffusion, le fait par exemple de prêter ou d'enregistrer pour soi dans un cadre non marchand, de la musique par exemple ou des images. Cette situation-là est en train de faire évoluer le droit et elle est en train de faire passer la règle de l'exception de l'autre côté. Jusqu'à présent, l'exception, c'était le droit qui était reconnu à l'auteur, évidemment, d'avoir un droit moral sur son œuvre et d'être rétribué pour sa création, mais aussi à l'investisseur de faire un bénéfice sur son travail. La question aujourd'hui, c'est que l'exception devient le droit de la copie. Et au travers du droit de la copie, par-delà le droit de la copie, le droit au libre accès au savoir. Il y a là un risque qui est un risque majeur, évidemment, pour la démocratie.
Mais est-ce que du coup, au plan économique, la solution ne serait pas plutôt, n'évoluerait pas plutôt vers une notion de location plutôt que d'une notion de propriété, ce bien commun qu'on entendait au début de notre entretien comme une propriété commune? Et est-ce qu'il n'est pas finalement plus raisonnable de dire que nous sommes locataires de cette planète et que nous allons envisager la gestion de ce bien précisément sous l'angle d'une location?
Cette idée de la location est assez ambiguë. Parce qu'en réalité, c'est bien ce qui est en train de se faire, dans un certain sens. Non pas au sens où nous occuperions d'une manière momentanée notre planète, et au sens où nous devrions préserver les avantages fondamentaux et le milieu, par exemple, à nos descendants. Cette idée de la location, elle est actuellement en train de se développer par un biais qui est le droit à l'accès. Ce qui devient une valeur économique, ce qui est économiquement aujourd'hui l'objet de règles et de restrictions et d'une appropriation, c'est la possibilité d'avoir accès à des œuvres, d'avoir accès à des créations, d'avoir accès au savoir, d'avoir accès à la science. Et ce sont ces droits à l'accès qui sont appropriés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la notion de propriété est en train d'évoluer et qu'elle est en train de se transformer. Mais la réponse par la location, est un petit peu ambigu. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la location, on est bien effectivement dans le fait de pouvoir faire monnayer un droit à l'accès, donc de le maîtriser, donc de le faire fonctionner à l'exclusion, et donc évidemment de retirer l'appropriation collective du bien commun à la communauté tout entière, du savoir, de la pensée, de la création.
Les solutions ne sont certainement pas évidentes. Elles sont peut-être à rechercher dans le domaine de l'idéal, elles sont peut-être à être nourries d'utopie, du moins c'est comme ça que la pensée humaine a, au fil des âges, évolué. Parlons maintenant, si vous voulez bien, justement, de cette notion d'idéal et d'utopie. C'est aussi un bien commun, finalement, cette capacité d'imaginer, de se projeter vers un futur, vers le bonheur, vers ce que vous expliquiez au début, le bien, c'est la recherche d'un but.
J'ai envie de répondre à cette question-là en rappelant un phénomène de circonstance ou un contexte qui a présidé à l'invention de l'utopie comme genre par Thomas More au début du XVIe siècle. C'est que c'est l'époque où, justement, commence un processus qui est celui de l'appropriation des terres communes. Et l'une des choses contre lesquelles More se dresse et par rapport auxquelles il construit sa pensée politique, c'est le fait que la petite paysannerie va peu à peu se trouver dépossédée de ses moyens au travers de cette appropriation que l'on a appelée l'enclosure, qui a duré pendant plusieurs siècles, qui s'est achevée au XVIIIe siècle et qui a dépouillé la petite paysannerie de ses terres. Nous sommes aujourd'hui dans une situation relativement analogue. D'ailleurs, Jeremy Rifkin, dans un livre qui s'appelle « L'âge de l'accès », fait le parallèle entre le processus d'appropriation des connaissances, tel que nous le connaissons aujourd'hui, et le phénomène de l'enclosure, c'est-à-dire de l'appropriation privée des terres qui étaient auparavant communes. C'est quelque chose de relativement intéressant, parce que ce que propose Thomas More dans la question de l'utopie, c'est bien une réponse non pas simplement au phénomène de l'enclosure, mais une réponse à un processus social. Comment penser l'ordre de la communauté comme un ordre dans lequel le travail et les biens se partagent, mais aussi dans lesquels des valeurs se partagent? Aujourd'hui, la question de l'utopie continue à se poser sur ce terrain-là. Et peut-être qu'il faudrait essayer, du coup, de penser en quoi la notion d'utopie a changé.
Est-ce qu'aujourd'hui l'île d'utopie est devenue une île virtuelle et qu'elle se situe quelque part dans le cyberespace?
Je ne crois pas du tout. L'utopie pensée comme un ailleurs, l'utopie pensée comme un au-delà de notre propre terre, est aussi un processus historique qui est celui de l'élargissement de l'Europe sur le monde, qui est celui de la découverte de l'Amérique. Le personnage de Thomas More, Raphaël Itlaudé, est un marin qui a navigué avec Vespucci, qui est celui qui a laissé son nom à l'Amérique, Amerigo Vespucci. Bien plus tard, le héros de Campanella sera un marin de colon. Nous sommes à ce moment-là dans un monde qui s'ouvre, et dans ce monde qui s'ouvre, l'ailleurs change de statut. Alors qu'il était dans la période médiévale, d'une autre nature que l'ici. Entre l'ici et l'ailleurs, il y avait un changement ontologique. L'ailleurs nous échappait. Ce qui constituait notre identité et notre réalité, c'était l'ici. Et rien ne garantissait que les lois qui s'appliquent ici continuent de s'appliquer ailleurs. Nous sommes à la Renaissance, au contraire, dans un processus de modification de l'ailleurs. L'ailleurs devient un ici autre, un ici lointain, mais accessible, que l'on peut conquérir, que l'on peut aménager, de sorte qu'à l'intérieur de l'espace, une alternative pouvait être pensée, ou que l'espace pouvait devenir le champ à l'intérieur duquel une alternative était pensable, de la même manière que le temps pouvait être aussi le champ dans lequel une alternative était pensable. Et après tout, la pensée révolutionnaire est porteuse de l'idée que nous pourrons construire demain un autre monde. Je crois que la question, de ce point de vue-là, a profondément changé. Nous sommes dans un monde qui n'a plus véritablement d'ailleurs. Nous sommes dans un monde qui est un « dedans ».
Mais a-t-il encore un ici, ce monde? Il n'a peut-être plus d'ailleurs, mais le champ du local est aussi questionné. Je m'excuse d'insister sur cette idée de communauté virtuelle, mais on assiste de plus en plus aujourd'hui avec Internet, avec les SMS, avec les blogs, les communautés virtuelles, à une sorte de disparition de l'idée de local, de localisation.
Je ne crois pas du tout. On n'est pas du tout en train d'assister à la disparition du local, on est en train de voir se modifier le sens du local. Le local ne fonctionne plus par opposition avec l'ailleurs, avec le lointain. Le local fonctionne dans un réseau d'intégration dans lequel se renvoient l'un à l'autre le registre du global et le registre du local. La question de l'utopie n'est pas du tout morte. Ce qui est mort, c'est l'idée d'une utopie qui serait un autre monde. Ce qui est vivant, me semble-t-il, c'est comment on peut construire ici même et dans ce monde d'autres solutions.
Pourtant, on le constate bien concrètement, cette globalisation est là pour premier effet de faire disparaître un certain nombre de services de proximité, ces services publics qui constituaient notre bien commun.
Sans doute, mais elle a aussi pour effet d'avoir réactualisé, par exemple, cette notion du bien commun. Il est très difficile aujourd'hui de comprendre comment la question peut se poser sans se rendre compte qu'un certain nombre de valeurs se sont développées, par exemple avec le développement d'Internet, et que ces valeurs ont mis en avant la notion du bien commun. L'exemple peut-être le plus simple et le meilleur qu'on pourrait donner, c'est l'exemple de la tentative juridique qui fonctionne, qui marche extrêmement bien, et qui est celle du Creative Commons, c'est-à-dire la façon de pouvoir proposer un droit d'auteur qui n'exclut plus l'autre, qui ne soit plus fondé sur la rareté et l'exclusion, mais qui soit fondé au contraire sur le principe du partage et de l'abondance, tout en protégeant les droits des auteurs. Cette notion du Creative Commons est l'un des biais par lesquels cette notion du commun et du bien commun et de la connaissance comme bien commun s'est développée. Il ne faut pas oublier que les protocoles Internet ont été créés non pas dans un assujettissement à des intérêts immédiats, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient marchands, mais d'une façon libre et ouverte, comme un bien commun. C'est le cas du TCP/IP, par exemple. Mais ce double processus est un processus qui est aujourd'hui une fracture, qui est aujourd'hui une fracture de combat. C'est-à-dire que le même monde, le même processus, par exemple médiatique, est en train de créer à la fois le processus d'appropriation du savoir et est en train de créer à la fois des communautés qui sont des communautés ouvertes, qui proposent au contraire le savoir comme un bien commun.
Restez à l'écoute de maintenant, tous les jours, à 6h30 et 17h pour la suite de cet entretien avec Jean Christoffol.
Maintenant.
Rejoignez-nous www.maintenant.org.